Chapitre 7. Un soir, la société disputait sur la question de savoir lequel méritait la préférence, du drame ou du roman. Serlot déclara que c'était une dispute inutile et vaine, que l'un et l'autre pouvaient être excellents en eux-mêmes, mais qu'ils devaient tous deux rester dans les limites du genre. « Ces limites même, répondit Wilhelm, ne me sont pas encore clairement tracées. » « Pour qui le sont-elles ? » reprit Serlot. « Et pourtant il vaudrait la peine d'éclaircir la chose. » On discourut longtemps, et voici quel fut à peu près le résultat de l'entretien. Dans le roman, comme dans le drame, nous voyons en action la nature humaine. La différence des deux genres ne tient pas uniquement à la forme extérieure, à ce que dans le drame les personnages parlent et que dans le roman, on raconte d'ordinaire leurs actions. Malheureusement, beaucoup de drames ne sont que des romans dialogués, et il ne serait pas impossible de composer un drame sous forme de lettres. Dans le roman, on doit surtout présenter des sentiments et des aventures. Dans le drame, des caractères et de l'action. Il faut que l'un marche lentement et que les sentiments du personnage principal suspendent, d'une manière quelconque, la marche de l'ensemble vers la conclusion. L'autre doit se hâter, et le caractère du personnage principal courir au dénouement, étant seulement arrêté par des obstacles. Le héros du roman doit être passif, ou du moins il ne doit pas être actif à un haut degré. Au héros du drame, on demande des actes et des effets. Grandisson, Clarisse, Pamela, le vicaire de Wakefield, Tom Jones lui-même, sont des personnages, sinon passifs, du moins propres à ralentir l'action. Et tous les événements sont, en quelque sorte, modelés sur leur manière de sentir. Dans le drame, le héros ne modèle rien sur lui-même. Tout lui résiste. Il écarte et renverse les obstacles, ou il en est écrasé. On convainc aussi que l'on peut admettre dans le roman les caprices du hasard, mais qu'il doit toujours être conduit et dirigé par les sentiments des personnages, tandis que le destin, qui, sans la participation des hommes, les pousse par un ensemble de circonstances vers une catastrophe imprévue, n'est à sa place que dans le drame. Que le hasard peut amener des situations pathétiques, mais non tragiques. Que le destin, au contraire, doit toujours être terrible et qu'il est tragique au plus haut point lorsqu'il confond ensemble des actions innocentes et criminelles, indépendantes les unes des autres, et les enchaîne dans une même fatalité. Ces réflexions ramenèrent au bizarre Hamlet et aux singularités de cette pièce. Le héros, disait-on, n'a que des sentiments. Il est sous l'impulsion des événements, et c'est pourquoi la pièce a quelque chose du développement romanesque. Mais, comme le destin a tracé le plan, comme la pièce naît d'un acte terrible et que le héros est incessamment poussé vers un acte terrible, elle est tragique dans le sens le plus élevé, et ne saurait admettre qu'un dénouement tragique. Une première répétition allait avoir lieu, dans laquelle chaque acteur se bornait à lire son rôle. Wilhelm s'en faisait une fête. Il avait eu soin de collationner les rôles, afin que, de ce côté, il ne pût y avoir d'hésitation. Tous les acteurs connaissaient la pièce, et il chercha seulement, avant que l'on commençât, à leur faire sentir l'importance d'une lecture en commun. Comme on exige de tout musicien qu'il puisse, jusqu'à un certain point, jouer à première vue, tout comédien, et même tout homme bien élevé, doit s'exercer à lire à première vue, à saisir d'abord le caractère d'un drame, d'un poème, d'un récit, pour l'exposer avec aisance. Tout apprendre par cœur ne sert de rien si le comédien n'a pas auparavant pénétré dans l'esprit et la pensée du poète. La lettre ne peut produire aucun effet. Serlot assura qu'il serait indulgent dans toute autre répétition, même dans la répétition générale, pourvu que l'épreuve de lecture fût satisfaisante. « Car d'ordinaire, disait-il, rien n'est plus ridicule que d'entendre les comédiens parler de leurs études. C'est absolument comme les francs-maçons qui parlent de leurs travaux. » La répétition réussit à souhait, et l'on peut dire que la troupe dut sa réputation et le bon accueil qu'on lui fit à ces quelques heures bien employées. « Vous avez bien fait, mon ami, dit Serlot à Wilhelm lorsqu'ils furent seuls, d'avoir parlé si sérieusement à nos camarades. Et pourtant, je craignais que vous n'eussiez de la peine à réaliser vos désirs. Pourquoi donc ? J'ai toujours vu qu'autant il est facile d'ébranler l'imagination des hommes et de leur faire écouter des fables avec plaisir, autant il est rare de trouver chez eux quelque imagination créatrice. Chez les comédiens, cela est frappant. Chacun est fort satisfait d'entreprendre un rôle honorable, brillant et beau, mais rarement on n'en fait plus que de se mettre avec complaisance à la place du héros, sans s'inquiéter le moins du monde de savoir si personne pourra voir aussi le héros dans son interprète. Mais de saisir vivement la pensée de l'auteur dans son ouvrage, ce qu'on doit sacrifier de son individualité pour remplir un rôle, comment, en se persuadant à soi-même qu'on est un autre homme, on peut faire partager au spectateur la même illusion? Comment, par l'intime vérité du jeu, on transforme ces planches en temples, ces toiles en forêts? Voilà ce qui est donné à peu de monde. Cette force intérieure de l'esprit, qui seule fait prendre le change au spectateur, cette vérité fictive, qui seule produit l'effet, seule conduit à l'illusion, qui donc en a quelque idée? Aussi n'insistons pas trop sur l'esprit et le sentiment. Le plus sûr est d'expliquer d'abord tranquillement à nos amis le sens de la lettre et de leur ouvrir l'intelligence. Celui qui a des dispositions rencontre ensuite par lui-même l'expression intelligente et pathétique, et celui qui n'en a pas ne jouera pas du moins et ne dira pas complètement faux. Mais je n'ai point vu chez les comédiens, comme chez toute autre personne, de plus fâcheuses ambitions que de prétendre à l'esprit avant de posséder clairement et couramment la lettre. Chapitre 8. Wilhelm arriva de très bonne heure à la première répétition qu'on devait faire au théâtre et se trouva seul sur la scène. Le local le surprit et lui rappela les plus saisissants souvenirs. La décoration, qui représentait un bois et un village, était exactement pareille à celle du théâtre de sa ville natale. C'était aussi à une répétition lorsque Marianne lui fit l'aveu passionné de son amour et lui promit la première nuit. Les cabanes du théâtre ressemblaient à celles de la campagne, et un rayon du vrai soleil matinal, pénétrant par une fenêtre entr'ouverte, éclaira une partie du banc négligemment posé à côté de la porte. Hélas, ce rayon ne brillait plus, comme autrefois, sur le sein et les genoux de Marianne. Il s'assit, il rêvait à ce singulier rapprochement, et croyait pressentir qu'il la reverrait bientôt peut-être à cette place. Et la vérité était simplement qu'une petite pièce à laquelle la décoration appartenait se jouait alors très souvent sur les théâtres d'Allemagne. Il fut troublé dans ses réflexions par l'arrivée des comédiens, avec lesquels entrèrent deux amis du théâtre et des coulisses, qui saluèrent Wilhelm avec enthousiasme. L'un s'était fait, en quelque sorte, le chevalier de Madame Mélina, l'autre était un pur ami du théâtre, et tous deux, des hommes rares, tels que toute bonne troupe devrait souhaiter d'avoir de pareils amis. On ne pouvait dire lequel l'emportait chez eux, de la connaissance ou de l'amour du théâtre. Il l'aimait trop pour bien le connaître. Il le connaissait suffisamment pour apprécier le bon et rejeter le mauvais. Mais la passion leur faisait trouver le médiocre supportable, et ils jouissaient du bon, soit par avance, soit après, avec des délices inexprimables. La partie mécanique les intéressait, la partie intellectuelle les enchantait, et leur goût était si vif qu'une répétition morcelée suffisait pour les jeter dans une sorte d'illusion. Les défauts ne leur apparaissaient jamais que dans l'éloignement. Le mérite les touchait comme un objet voisin. Bref, c'était des amateurs comme l'artiste désire d'en rencontrer dans ses travaux. Leur promenade favorite était des coulisses au parterre et du parterre aux coulisses. Leur plus agréable séjour était la loge des acteurs. Leur occupation la plus assidue, de corriger quelque chose à la tenue, à l'habillement, au débit et à la déclamation des comédiens. Leur plus vif entretien roulait sur l'effet qu'on avait produit, et leurs efforts continuels avaient pour objet de rendre le comédien attentif, exact et soigneux, de lui faire quelques cadeaux ou quelques plaisirs, et, sans prodigalité, de procurer à la troupe quelques jouissances. Ils avaient acquis le droit exclusif d'assister, sur le théâtre, aux répétitions et aux représentations. En ce qui touche celle d'Hamlet, ils ne furent pas d'accord avec Wilhelm sur tous les points. Il céda sur quelques-uns, mais le plus souvent il maintint son opinion. En somme, leur conversation développa son goût sensiblement. Il témoignait aux deux amis la plus haute estime, et de leur côté, nos amateurs ne prédisaient pas moins, comme résultat de leurs efforts communs, qu'une époque nouvelle pour le théâtre allemand. La présence de ces deux hommes aux répétitions fut très utile. Ils parvinrent surtout à convaincre nos comédiens qu'ils devaient, dans ces exercices, unir sans cesse avec le discours la tenue et le geste, tels qu'ils se proposaient de les observer dans la représentation, et d'associer le tout ensemble par une habitude machinale. Il ne fallait, surtout dans la répétition d'une tragédie, se permettre aucun mouvement des mains qui fût vulgaire. Un acteur tragique, qui prenait une prise de tabac pendant la répétition, leur donnait toujours de l'inquiétude, car très vraisemblablement, dans la représentation, ils sentiraient, au même endroit, le besoin de la prise. Ils soutenaient même que nul ne devait répéter en bottes le rôle qu'il aurait à jouer en souliers. Mais rien, disaient-ils, ne les affligeait plus que de voir, aux répétitions, les femmes cacher leurs mains dans les plis de leurs robes. Les exhortations de ses amis du théâtre eurent encore l'heureux effet de décider tous les hommes à s'exercer au maniement des armes. « Les rôles militaires sont très nombreux, disait-il. Or, il n'y a rien de plus misérable que de voir des hommes qui n'ont pas la moindre tenue militaire se dandiner sur le théâtre, en uniforme de major ou de capitaine. » Wilhelm et Laert furent les premiers qui se firent les élèves d'un sous-officier, et ils continuèrent en outre avec zèle leurs exercices d'escrime. C'est ainsi que nos deux amateurs concouraient à former une troupe qui s'était si heureusement réunie. Ils songeaient au plaisir du public, tandis qu'ils s'égayaient dans l'occasion aux dépens de leur manie dramatique. On ne savait pas combien on leur était redevable, surtout en ce qu'ils ne manquaient pas d'insister auprès des acteurs sur le point essentiel, c'est-à-dire leur devoir de parler haut et distinctement. Ils trouvèrent sur ce point plus de résistance et de mauvaise volonté qu'ils n'avaient supposé d'abord. La plupart prétendaient qu'on les entendit comme ils parlaient, et bien peu s'efforçaient de parler de manière à ce qu'on pût les entendre. Quelques-uns rejetaient la faute sur l'édifice. D'autres disaient qu'on ne pouvait pourtant pas crier lorsqu'on avait à parler naturellement ou en secret ou avec tendresse. Nos amateurs, qui avaient une patience incroyable, cherchèrent par tous les moyens à dissiper cette erreur, à vaincre cette obstination. Ils n'épargnèrent ni les raisonnements ni les flatteries, et ils atteignirent enfin leur but. Ils y réussirent principalement grâce au bon exemple de Wilhelm. Il les pria de s'asseoir, pendant les répétitions, aux places les plus éloignées, et de frapper sur le banc avec une clé, aussitôt qu'ils ne l'entendraient pas distinctement. Il articulait nettement, il ménageait sa voix, l'élevait par degrés, et ne la forçait point dans les passages les plus passionnés. À chaque répétition nouvelle, les clés se faisaient moins entendre. Peu à peu, les autres acteurs se soumirent à la même épreuve, et l'on put espérer enfin que la pièce serait entendue dans toutes les parties de la salle. On voit par cet exemple combien les hommes sont enclins à ne poursuivre leur but que de la manière qui leur plaît. Combien l'on a de peine à leur faire comprendre ce qui s'entend de soi-même, et combien il est difficile d'amener celui qui veut exécuter quelque chose à reconnaître les premières conditions indispensables à son dessein. Chapitre 9. On continuait à s'occuper des préparatifs nécessaires pour les décorations, les costumes et tous les autres accessoires. Wilhelm avait, sur quelques scènes et quelques passages, des fantaisies particulières auxquelles Serlot se prêtait, soit par égard pour leur traité, soit par conviction, et parce qu'il espérait gagner Wilhelm par cette complaisance et le conduire d'autant mieux dans la suite selon ses vues. Ainsi, par exemple, il fut convenu que dans la première audience, le roi et la reine seraient assis sur leur trône, les courtisans à leur côté et Hamlet confondu dans leur rang. « Hamlet, disait Wilhelm, doit se tenir tranquille. Ses vêtements de deuil le font assez reconnaître. Il doit se cacher plutôt que se mettre en évidence. C'est seulement quand l'audience est finie, quand le roi lui parle comme à un fils, qu'il peut s'avancer et que la scène commence. » Ce fut encore un objet sérieusement considéré que les deux portraits, auxquels Hamlet fait une allusion si vive dans la scène avec sa mère. « Je veux, disait Wilhelm, les voir tous deux, de grandeur naturelle, au fond de la salle, aux deux côtés de la porte principale. Il faut que le vieux roi, armé de pied en cap, comme le spectre, soit placé du côté où la vision se montrera. Je désire qu'il fasse, de la main droite, un geste de commandement, qu'il soit un peu tourné et qu'il regarde comme par-dessus l'épaule, afin qu'il soit parfaitement semblable au fantôme dans le moment où celui-ci se retire. L'effet produit sera très grand si, dans ce moment, Hamlet regarde le spectre et la reine le portrait. Le beau-père peut être représenté en costume royal, mais moins apparent. On s'occupa encore de divers détails sur lesquels nous aurons peut-être occasion de revenir. « Mais avez-vous pris, dit Serlot, la résolution inexorable de faire mourir Hamlet ?»«
Je ne puis le laisser vivre, dit Wilhelm, puisque la pièce tout entière le pousse à la mort. Nous avons déjà amplement discouru sur ce point. »
« Mais le public désire qu'il vive. »
« Je serais charmé de lui complaire en autre chose, mais cette fois c'est impossible. Nous désirons aussi qu'un homme de mérite, un homme utile, qui se meurt d'une maladie chronique, puisse prolonger sa vie. La famille pleure et conjure le médecin, qui ne peut le sauver. Mais tout comme le malade ne peut résister à une nécessité de la nature, nous ne pouvons faire violence à une évidente nécessité de l'art. » C'est avoir pour le public une aveugle condescendance que d'éveiller chez lui les sentiments qu'il veut éprouver, et non ceux qu'il doit éprouver.
Celui qui paye peut demander la marchandise qu'il lui plaît.
Jusqu'à un certain point. Mais un grand public mérite qu'on le respecte, qu'on ne le traite pas comme des enfants auxquels on veut attraper leur argent. Qu'on lui inspire peu à peu, par de bons ouvrages, le sentiment et le goût de ce qui est bon, et il donnera son argent avec un double plaisir, parce que, même dans cette dépense, l'esprit, la raison, n'auront rien à lui reprocher. On peut le flatter comme un enfant chéri pour le rendre meilleur, pour l'éclairer à l'avenir, et non comme un grand et un riche, pour éterniser l'erreur dont on profite. Ils traitèrent de la sorte bien d'autres points. Par exemple, la question de savoir ce qu'on pourrait changer encore à la pièce et ce qui devait rester intact. Nous ne voulons pas nous y arrêter davantage, mais un jour, peut-être, nous soumettrons ce nouveau remaniement d'Hamlet à ceux de nos lecteurs que cela pourrait intéresser. Chapitre 10. La répétition générale était finie. Elle avait été d'une longueur démesurée. Serlot et Wilhelm trouvaient encore maintes choses à régler, car, malgré le temps considérable qu'on avait mis aux préparatifs, on avait renvoyé jusqu'au dernier moment beaucoup d'arrangements très nécessaires. Ainsi, par exemple, les portraits des deux rois n'étaient pas achevés, et la scène d'Hamlet avec sa mère, dont on attendait un grand effet, n'en produisait encore que très peu, parce que ni le spectre ni son portrait n'avaient paru. Serlot en fit des plaisanteries. « Nous serions furieusement attrapés, disait-il, si le fantôme allait faire défaut, si les gardes devaient porter leur coup d'épée en l'air, et notre souffleur donner de la coulisse la réplique à la place du fantôme. » « Gardons-nous, dit Wilhelm, d'écarter par nos doutes notre merveilleux ami. Il viendra certainement à son heure et nous surprendra aussi bien que les spectateurs. » « Ce qu'il y a de certain, s'écria Serlot, c'est que je serai bien content demain quand la pièce sera finie. Elle nous donne plus d'embarras que je n'aurais imaginé. » « Mais personne au monde, répliqua Philine, ne sera plus content que moi, si peu que mon rôle m'inquiète, car entendre toujours et sans cesse parler d'une seule chose, d'où ne sortira rien de plus qu'une représentation, qui sera oubliée comme tant d'autres, ma patience n'y peut suffire. Au nom du ciel, ne faites pas tant d'embarras. Les convives qui se lèvent de table ont ensuite quelque chose à redire sur chaque plat. Même à les entendre parler chez eux, il leur semble à peine concevable qu'ils aient pu souffrir un pareil supplice. « Permettez, ma belle enfant, répondit Wilhelm, que je m'empare de votre comparaison. Songez à tout ce que la nature et l'art, le commerce, les métiers, l'industrie, doivent fournir ensemble pour arriver à servir un festin. Que d'années le cerf doit passer dans la forêt, le poisson dans la mer ou la rivière, jusqu'à ce qu'il soit digne de figurer sur notre table. Et la ménagère et la cuisinière, que n'ont-elles pas à faire dans la cuisine ? Avec quelle insouciance on avale, au dessert, le labeur du vigneron lointain, du navigateur, du sommelier, comme une chose toute simple. Est-ce une raison pour que tous ces hommes cessent de travailler, de produire et de préparer? Le maître de maison ne devrait-il plus rassembler, conserver soigneusement toutes ces choses, parce qu'enfin la jouissance ne sera que passagère? Mais il n'en est point qui le soit. Car l'impression que la jouissance laisse est durable, et ce qu'on fait avec soin et travail communique au spectateur lui-même une force secrète, dont les effets sont d'une étendue incalculable. « Tout cela m'est égal, répondit Philine. Je ne fais qu'apprendre ici, une fois de plus, que les hommes sont toujours en contradiction avec eux-mêmes. Avec tous vos scrupules pour éviter de mutiler votre grand poète, vous écartez cependant la plus belle pensée de la pièce.
« La plus belle ? » s'écria Wilhelm.
« Assurément, la plus belle. Et Hamlet lui-même en est assez fier. »«
Quelle est cette pensée ? » dit Serlot.
« Si vous aviez une perruque, reprit la jeune fille, je vous l'ôterais très délicatement, car il semble nécessaire qu'on vous ouvre l'esprit. » Toute la compagnie rêvait sur ce propos, et la conversation était suspendue. On s'était levé, il était tard, on semblait disposé à se séparer. Pendant ce moment d'irrésolution, Philine se mit à chanter les strophes suivantes sur un air très désagréable. « Ne chantez pas d'un ton lugubre la solitude de la nuit. Non, beauté charmante, la nuit est faite pour la société. » Ainsi que la femme fut donnée à l'homme, comme sa plus belle moitié, la nuit est la moitié de la vie, et c'est la moitié la plus belle. Pouvez-vous aimer le jour, qui ne fait qu'interrompre les plaisirs? Il est bon à nous distraire, il ne vaut rien pour autre chose. Mais lorsqu'aux heures de la nuit, la douce lampe verse une faible lumière, et que des lèvres aux lèvres voisines s'épanchent le badinage et l'amour, lorsque l'enfant, prompt et volage, qui d'ordinaire précipite sa course ardente, impétueuse, souvent pour la moindre faveur, s'arrête au milieu des jeux légers, quand le rossignol chante aux amants une amoureuse chanson, où les captifs et les affligés n'entendent que plaintes et soupirs, avec quel doux battement de cœur ne prêtez-vous pas l'oreille à la cloche, dont les douze coups discrets promettent repos et sûreté? Aussi, durant la longue journée, ma chère âme, qu'il t'en souvienne, chaque jour a son tourment et chaque nuit son plaisir. » Philine, en terminant sa chanson, fit une petite révérence et Serlot cria « Bravo !» Elle sortit vivement et s'enfuit en faisant des éclats de rire. On l'entendait encore fredonner en descendant l'escalier et faire cliqueter ses pantoufles. Serlot passa dans la chambre voisine. Aurélie, debout devant Wilhelm, qui lui souhaitait le bonsoir, lui dit encore « Que cette Philine m'est odieuse, profondément odieuse, jusque dans les plus petites choses. Ses cils bruns, avec ses cheveux blonds, que mon frère trouve ravissants, je ne puis les souffrir. Et cette cicatrice au front est à mes yeux un objet tellement ignoble et repoussant qu'il me ferait reculer de 10 pas. » Elle racontait l'autre jour, par forme de plaisanterie, que dans son enfance, son père lui avait jeté une assiette à la tête et qu'elle en portait la marque. Elle est bien marquée aux yeux et sur le front, afin qu'on ait à se méfier d'elle. Wilhelm ne répondait rien, et Aurélie poursuivit, en laissant voir plus d'amertume encore. « Il m'est presque impossible, tant je la déteste, de lui adresser une parole obligeante et polie. Et pourtant, elle est fort caressante. Je voudrais que nous fussions délivrés d'elle. Vous aussi, mon ami, vous avez pour cette créature une certaine complaisance, des manières qui me blessent le cœur, des attentions qui approchent de l'estime, et que, par le ciel, elle ne mérite pas. » « Telle qu'elle est, répondit Wilhelm, je lui dois de la reconnaissance. On peut blâmer sa conduite, mais je dois rendre justice à son caractère. » « Son caractère ? Croyez-vous qu'une pareille créature puisse avoir un caractère ? Je vous reconnais là, vous autres hommes. Vous méritez de telles femmes. » « Me soupçonnez-vous, ma chère amie ? Je puis vous rendre compte de chaque minute que j'ai passée avec elle. » « Fort bien, fort bien. Il est tard, ce n'est pas le moment de disputer. Vous êtes tous les mêmes. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, mon bel oiseau de paradis. » Wilhelm me demanda comment il avait mérité ce titre d'honneur. « Une autre fois, répondit Aurélie, une autre fois. On dit que ces oiseaux-là n'ont point de pied, qu'ils ne font que planer dans l'espace et se nourrissent de l'éther. Mais c'est une fable, ajouta-t-elle. Une fiction poétique. Bonne nuit, tâchez de faire un beau rêve. » Elle se retira chez elle et le laissa seul. Il se hâta de regagner sa chambre. Il se promenait de long en large, d'assez mauvaise humeur. Le ton badin, mais décidé d'Aurélie, l'avait blessé. Il sentait profondément combien elle lui faisait injure. Il ne pouvait être dur et malhonnête avec Philine. Elle n'avait eu aucun tort à son égard. Et puis il se sentait si loin de toute faiblesse pour elle qu'il pouvait, avec assurance et fierté, se rendre témoignage à lui-même. Il était sur le point de se déshabiller et il s'avançait vers son lit pour en ouvrir les rideaux lorsque, à sa très grande surprise, il vit devant le lit une paire de pantoufles, l'une debout, l'autre posée à terre. C'étaient les pantoufles de Philine, qu'il ne connaissait que trop bien. Il crut voir aussi dans les rideaux quelques désordres, même ils lui semblèrent s'agiter. Il s'arrêta, le regard immobile. Une nouvelle émotion, qu'il prit pour du dépit, lui ôtait la respiration. Et, après une courte pause, pendant laquelle il s'était remis, il dit avec fermeté « Levez-vous, Philine, que signifie cela ? Qu'est devenue votre sagesse, votre bonne conduite? Voulez-vous nous rendre demain la fable de la maison ?»
Rien ne remuait.
« Je ne plaisante pas, » poursuivit-il. « Ces agaceries sont très mal adressées. »
Pas un souffle, pas un mouvement.
Résolu et mécontent, il marcha droit au lit et ouvrit brusquement les rideaux. « Levez-vous, » dit-il, « ou je vous laisserai la chambre pour cette nuit. » À sa grande surprise, il trouva son lit vide, les coussins et les couvertures dans le plus bel ordre. Il regarda autour de lui, il chercha, fouilla partout, et ne trouva pas une trace de la friponne. Derrière le lit, derrière le poêle, les armoires, il n'y avait personne. Il cherchait encore et encore. Un témoin malin aurait pu croire qu'il cherchait pour trouver. Il n'avait pas la moindre envie de dormir. Il posa les pantoufles sur la table, se promena en long et en large, s'arrêtant quelquefois devant la table. Et un malin génie, qui le guettait, nous assure qu'il s'occupa une grande partie de la nuit des pantoufles mignonnes, qu'il les contemplait avec un certain intérêt, les maniait, jouait avec elles, et que, vers le matin seulement, il se jeta tout habillé sur son lit, où il s'endormit avec les plus étranges visions. Il sommeillait encore quand Serlot entra dans sa chambre et s'écria « Où êtes-vous ? Encore au lit ? Impossible ! Je vous cherchais au théâtre, et nous avons encore bien des choses à faire. »
Chapitre 11. La matinée et l'après-midi s'écoulèrent promptement. Déjà la salle était pleine et Wilhelm se hâtait de s'habiller. Il ne pouvait mettre son costume aussi commodément que la première fois qu'il l'avait essayé. Lorsqu'il parut au foyer, les dames s'écrièrent tout d'une voix que rien n'était à sa place. Le beau panache était dérangé, la boucle n'allait pas bien. On se mit à coudre, à découdre, à rajuster. La symphonie avait commencé. Philine redressait encore quelque chose à la fraise et Aurélie au pli du manteau.
« Laissez-moi, enfant que vous êtes, » disait-il. « Cette négligence fera de moi un véritable Hamlet. »
Les dames ne le quittaient pas et continuaient à l'ajuster. La symphonie avait cessé et la pièce était commencée. Il jeta un coup d'œil au miroir, enfonça son chapeau sur ses yeux et se remit un peu de fard. À ce moment, quelqu'un accourut en s'écriant « Le fantôme ! Le fantôme !» Wilhelm n'avait pas eu de tout le jour le temps de songer à son grand souci, de savoir si le spectre paraîtrait. Maintenant il était rassuré, et l'on pouvait s'attendre au plus étrange auxiliaire. L'inspecteur du théâtre survint, demandant ceci et cela. Wilhelm n'eut pas le temps de chercher des yeux le fantôme. Il courut se ranger auprès du trône, où le roi et la reine, environnés de leur cour, brillaient déjà dans toute leur magnificence. Il n'eut que le temps d'entendre les derniers mots d'Horatio, qui parlait avec le plus grand trouble de l'apparition du spectre et semblait presque avoir oublié son rôle. Le rideau se leva et Wilhelm voyait devant lui la salle remplie. Après qu'Horatio eut débité sa tirade et en eut fini avec le roi, il s'approcha d'Hamlet, comme pour se présenter au prince, et lui dit à voix basse « Le diable est sous la cuirasse, et il nous a fait prendre à tous la fuite de peur. » Cependant, on ne voyait dans les coulisses que deux hommes de haute taille, enveloppés de manteaux et de capuchons blancs. Et Wilhelm, qui, dans sa distraction, son inquiétude et son embarras, croyait avoir manqué le premier monologue, malgré les vifs applaudissements qu'il avait accompagnés à sa sortie, reparut avec un véritable malaise au milieu de l'affreuse et dramatique nuit d'hiver. Mais il se remit et débita, avec l'indifférence convenable, la tirade placée si à propos sur le goût des peuples du Nord pour les festins et la boisson. Là-dessus, comme les spectateurs, il oubliait le fantôme et fut saisi d'une véritable frayeur lorsque Horatio s'écria « Voyez, il vient !» Wilhelm se retourna brusquement et la noble et grande figure,
sa marche, qu'on entendait à peine, ses mouvements légers sous l'armure qui semblait pesante, produisirent sur lui une si forte impression qu'il restait là comme pétrifié et ne put s'écrier que d'une voix étouffée « Ange, esprit céleste, protégez-nous !» Il regardait fixement le spectre, il reprit plusieurs fois haleine et lui adressa la parole avec tant de trouble, de désordre et de tels efforts que le plus grand art n'aurait pu les exprimer aussi parfaitement. La manière dont il avait traduit ce passage le servit à merveille. Il s'était attaché de près à l'original, dont les expressions lui semblaient rendre admirablement l'état d'une âme surprise, effrayée et saisie d'horreur. « Que tu sois un bon génie, que tu sois un lutin maudit, que tu apportes les parfums du ciel ou les vapeurs de l'enfer, que ton intention soit bonne ou mauvaise, tu viens sous une figure vénérable. Oui, je te parle, je te nomme Hamlet, roi, père. Oh, réponds-moi !» On observa que l'assemblée était profondément émue. Le spectre fit un signe au prince, qui le suivit au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. La scène changea, et lorsqu'ils arrivèrent dans la place écartée, le spectre s'arrêta soudain et se retourna, en sorte qu'Hamlet se trouva un peu trop près de lui. Aussitôt, avec une vive curiosité, Wilhelm l'observa à travers la visière baissée, mais il ne put distinguer que des yeux enfoncés et un nez régulier. Il était devant lui, l'observant avec crainte. Mais, quand les premiers accents sortirent du casque, lorsqu'une voix sonore, quoique un peu rude, fit entendre ces paroles « Je suis l'ombre de ton père !» Wilhelm recula de quelques pas en frémissant, et tous les spectateurs frémirent. Chacun crut reconnaître la voix, et Wilhelm lui trouva quelque ressemblance avec la voix de son père. Ses mystérieux sentiments, ses souvenirs, le désir de découvrir cet étrange ami, la crainte de l'offenser, même l'inconvenance qu'il y avait à s'avancer trop près de lui, comme acteur dans cette situation, poussaient Wilhelm en sens contraire. Il changea si souvent d'attitude pendant le long récit du spectre, il parut si irrésolu et si embarrassé, si attentif et si distrait, que son jeu excita une admiration générale, comme le spectre, un effroi général. Le vieux roi parlait avec le profond sentiment d'une douleur amère, plutôt que gémissante, mais c'était une douleur idéale, lente, infinie. C'était le découragement d'une grande âme, qui est séparée de toutes les choses terrestres et qui succombe néanmoins à des peines sans bornes. Il disparut enfin, mais d'une manière étrange, un voile léger, grisâtre, transparent, qui sembla s'élever de l'abîme, l'enveloppa tout entier et l'entraîna avec lui. Alors les amis d'Hamlet reparurent et ils jurèrent sur l'épée. Mais la vieille taupe travailla si bien sous terre qu'en quelque lieu qu'ils fussent, elle leur criait sous les pieds « Jurez !» Et comme si le sol avait brûlé sous leurs pas, ils couraient d'une place à une autre. Où ils se trouvaient, sortait aussitôt de terre une petite flamme qui augmentait l'effet et laissait chez tous les spectateurs une impression profonde. La pièce suivit son cours sans accident. Nul échec. Tout réussit. Le public témoignait son contentement. L'ardeur et le courage des comédiens semblaient s'accroître à chaque scène. Chapitre 12. Le rideau tomba et les plus vifs applaudissements retentirent dans toute la salle. Les quatre princes morts se relevèrent lestement et s'embrassèrent de joie. Polonius et Ophélie sortirent de leur tombeau et ils eurent encore le vif plaisir d'entendre comme Horatio, lorsqu'il s'avança pour l'annonce, fut accueilli par des battements de mains frénétiques. On ne voulut entendre parler d'aucune autre pièce, et l'on demanda avec enthousiasme une seconde représentation d'Hamlet. La bataille est gagnée, s'écria Serlo. Ce soir, plus un seul mot de raison. Tout dépend de la première impression. Il ne faut pas trouver mauvais que tout comédien soit circonspect et obstiné dans ses débuts. Le caissier vint et lui présenta une magnifique recette. « Nous avons bien débuté, dit Serlo, et le préjugé nous profitera. Où donc est le souper qu'on nous a promis ? Nous avons droit de nous régaler aujourd'hui. » Ils étaient convenus de passer la soirée ensemble, dans leurs habits de théâtre, et de se donner une fête. Wilhelm s'était chargé du local et Madame Mélina du souper. Une salle où l'on peignait les décors avait été mise en état, ornée de diverses décorations et si bien disposée qu'elle avait l'air d'un jardin bordé d'une colonnade. Dès l'entrée, la société fut éblouie par l'éclat des lumières qui répandait sur une table bien parée et bien servie un air de fête à travers la vapeur des plus doux parfums que l'on n'avait pas épargnés. On se récria sur la beauté de ces apprêts et l'on prit place avec cérémonie. Wilhelm était assis entre Aurélie et Madame Mélina, Serlo entre Elmire et Philine. Nul n'était mécontent de lui-même et de sa place. Les deux amateurs, qui s'étaient joints à la société, en augmentèrent le plaisir. Pendant la représentation, ils étaient venus plusieurs fois dans les coulisses, et ne pouvaient assez témoigner leur satisfaction et celle du public. Maintenant, ils en vinrent au détail, et chaque acteur reçut sa large part d'éloges. Chaque mérite, chaque passage fut relevé avec une vivacité incroyable. Le souffleur, qui était assis modestement au bout de la table, fut hautement félicité pour sa tirade du farouche Pyrrhus. On ne put assez louer l'adresse qu'Hamlet et Laërte avaient déployée dans l'escrime. La tristesse d'Ophélie avait été noble et belle au-delà de toute expression. On ne trouvait pas de terme pour le jeu de Polonius. Chacun des assistants entendait son éloge dans celui des autres et dans la bouche de ses camarades. Le fantôme absent ne fut pas oublié dans ce concert d'éloges et d'admiration. Il avait déployé le plus heureux organe et parlé avec un sens profond. On s'étonnait particulièrement qu'il parût informé de tout ce qui s'était passé au sein de la troupe. Il ressemblait parfaitement au portrait, comme s'il eût servi de modèle à l'artiste. Les amateurs ne pouvaient assez vanter l'effet terrible du moment où il s'était approché de son portrait et avait passé devant son image. La vérité et l'erreur s'étaient merveilleusement confondues, et l'on avait cru qu'en effet, la reine voyait seulement l'une des figures. Madame Mélina fut très approuvée d'avoir alors regardé fixement le portrait, tandis qu'Hamlet indiquait du geste le fantôme. On demanda comment le spectre avait pu s'introduire, et l'on apprit, de l'inspecteur du théâtre, qu'une porte de derrière, ordinairement obstruée par les décorations, s'était trouvée libre ce soir-là, parce qu'on avait eu besoin de la salle gothique et qu'il était arrivé par là deux grandes figures en manteaux et capuchons blancs, qu'on ne pouvait distinguer l'une de l'autre, qu'elles étaient vraisemblablement sorties de la même façon à la fin du troisième acte. Serlo loua surtout le spectre de ne s'être pas trop lamenté, comme un pauvre bélitre, et d'avoir même ajouté à la fin un passage plus convenable à ce héros pour enflammer son fils. Wilhelm l'avait retenu, et il promit de l'ajouter à son manuscrit. Dans la joie du festin, on n'avait pas remarqué l'absence des enfants et du joueur de harpe, mais ils firent bientôt une entrée fort agréable. Ils se présentèrent ensemble, dans un costume très pittoresque. Félix jouait du triangle, Mignon du tambour de basque, et le vieillard, portant sa harpe suspendue à son cou, jouait en marchant. Ils firent le tour de la table en chantant diverses chansons. Ils furent servis à leur tour, et les convives se firent une fête de verser aux enfants autant de vin doux qu'ils en voulaient boire. La compagnie elle-même n'avait pas ménagé les précieuses bouteilles, dont quelques paniers étaient arrivés, le soir, sur l'ordre des deux amateurs. Les enfants ne cessaient de sauter et de chanter. Mignon était surtout d'une gaieté folle, comme on ne l'avait jamais vue. Elle jouait du tambour de basque avec une vivacité et une grâce infinies. Tantôt, pour le faire gronder, elle passait vivement le doigt sur la peau. Tantôt, elle le frappait avec le revers de la main et les jointures des doigts. Même, elle battait le parchemin contre ses genoux, contre sa tête, selon des rythmes changeants, ou le secouait, ne faisant plus entendre que les grelots, et tirait des sons très variés du plus simple des instruments. Après avoir fait longtemps leur tapage, les enfants se jetèrent dans un fauteuil qui était resté vide en face de Wilhelm. « Ôtez-vous du fauteuil !» leur cria Serlot. « Il est réservé pour le fantôme. S'il vient, vous pourrez en pâtir. »«
Je ne le crains pas, » dit Mignon. « S'il vient, nous lui ferons place. C'est mon oncle, il ne me fera point de mal. »
Pour comprendre cette répartie, il fallait savoir qu'elle avait désigné, sous le nom du grand diable, son père supposé. Les convives se regardèrent et furent confirmés dans le soupçon que l'apparition du spectre n'était pas un mystère pour Serlot. On jasait et l'on buvait, et les jeunes filles regardaient par moments avec frayeur du côté de la porte. Les enfants, assis dans le grand fauteuil, et qui ne paraissaient au-dessus de la table que comme polichinelles hors de la caisse, commencèrent à jouer une scène à sa façon. Mignon imitait fort bien sa voix nasillarde, et ils se frappèrent la tête l'un contre l'autre ou sur le bord de la table avec toute la violence que des poupées de bois auraient pu seules endurer. Mignon était joyeuse jusqu'à la fureur, et les comédiens, qui d'abord s'étaient fort amusés de ce badinage, durent le faire cesser. Mais les exhortations eurent peu d'effet, car elle se leva en sursaut et courut comme une possédée autour de la table, le tambour de basque à la main. Ses cheveux flottaient, et comme elle portait la tête en arrière et lançait, pour ainsi dire, ses membres en l'air, elle ressemblait à ces ménades dont les attitudes sauvages et presque impossibles nous étonnent souvent encore dans les anciens monuments. Animée par le succès et le bruit des enfants, chacun voulut contribuer à l'amusement de la société. Les dames chantèrent des canons, Laerte contrefit le rossignol, et le pédant donna un concert pianissimo sur la guimbarde. Les voisins et les voisines jouaient ensemble divers jeux où les mains se rencontrent et se mêlent, et plus d'un couple ne manqua pas d'exprimer de tendres espérances. Madame Mélina, surtout, ne pouvait cacher un vif penchant pour Wilhelm. La nuit était avancée. Aurélie, qui était presque seule restée maîtresse d'elle-même, avertit la compagnie, en se levant de table, qu'il était temps de se retirer. Au moment du départ, Serlot donna encore le régal d'un feu d'artifice. Il savait imiter avec la voix, d'une manière inconcevable, le bruit des fusées, des soleils et des serpenteaux. Il suffisait de fermer les yeux pour que l'illusion fût complète. Cependant, tout le monde s'était levé et l'on offrait le bras aux dames. Wilhelm sortit le dernier avec Aurélie. Ils rencontrèrent sur l'escalier l'inspecteur du théâtre, qui leur dit « Voici le voile dans lequel le spectre a disparu. Il est resté suspendu à la trappe, et nous venons de le trouver. »«
Merveilleuse relique !» s'écria Wilhelm, et il prit le voile des mains de l'inspecteur.
En ce moment, il se sentit saisir le bras gauche, et il éprouva en même temps une violente douleur. Mignon s'était mise en embuscade, l'avait saisie et mordue au bras. Elle passa près de lui, descendit l'escalier et disparut. Quand les convives furent arrivés au grand air, presque tous s'aperçurent qu'ils avaient dépassé les bornes de la tempérance, et sans prendre congé, ils se dispersèrent. Arrivé dans sa chambre, Wilhelm se hâta de se déshabiller, d'éteindre sa lumière et de se mettre au lit. le sommeil allait s'emparer de lui, mais un léger bruit qu'il crut entendre derrière le poêle attira son attention. La figure du roi, couvert de son armure, flottait dans son imagination échauffée. Il s'assit pour adresser la parole au spectre lorsqu'il se sentit entouré de deux bras délicats. De tendres baisers lui fermèrent la bouche et il sentit sa poitrine pressée par un beau sein qu'il n'eut pas le courage de repousser. Chapitre 13. Le lendemain, Wilhelm se réveilla avec un sentiment pénible et se trouva seul dans son lit. Les vapeurs du vin, que le sommeil n'avait pas entièrement dissipé, lui laissaient encore la tête pesante, et il ne songeait pas sans inquiétude à la visite nocturne de la belle inconnue. Ses premiers soupçons tombèrent sur Philine, et cependant le corps charmant qu'il avait pressé dans ses bras ne semblait pas être le sien. Il s'était endormi au milieu des plus vives caresses, à côté de cette étrange et muette visite, et maintenant il n'en découvrait plus aucune trace. Il sauta à bas du lit, et il vit, en s'habillant, que sa porte, qu'il avait coutume de fermer à clef, était seulement appuyée. Il ne put se rappeler s'il l'avait fermée la veille. Mais ce qui l'étonna surtout fut le voile du fantôme qu'il trouva sur son lit. Il l'avait apporté, et probablement il l'avait lui-même jeté là. C'était un crêpe gris. Sur la bordure, il vit cette inscription brodée en lettres noires « Pour la première fois et la dernière, fuis, jeune homme, fuis !» Dans cet instant, Mignon entra et lui apporta son déjeuner. L'aspect de cet enfant le surprit, on pourrait dire l'effraya. Elle semblait avoir grandi pendant la nuit. Elle se présenta devant Wilhelm d'un air imposant et noble, et fixa sur lui un œil si sévère qu'il ne put soutenir son regard. Elle ne lui fit point les caresses accoutumées, elle qui d'ordinaire lui serrait la main, lui baisait la joue, la bouche, le bras ou l'épaule. Mais après avoir fait son service, elle se retira en silence. L'heure fixée pour une lecture était venue. On se réunit et tout le monde était mal disposé grâce à la fête de la veille. Wilhelm recueillit ses forces du mieux qu'il put pour ne pas manquer d'abord aux maximes qu'il avait si vivement prêchées. Sa grande pratique vint à son secours, car la pratique et l'habitude doivent, dans tous les arts, combler les lacunes que laisseraient si souvent le génie et le caprice. Toutefois, on put reconnaître, en cette occasion, combien il est vrai de dire qu'on ne devrait jamais entrer avec solennité dans aucune situation qui doit durer longtemps, qui doit même devenir un état, un genre de vie, que l'on se borne à fêter ce qui est heureusement accompli. Toute cérémonie, au début, épuise l'ardeur et les forces qui produisent l'élan et qui doivent nous soutenir dans un labeur continu. De toutes les fêtes, celles du mariage sont les plus déplacées. Aucun acte ne devrait s'accomplir avec plus de silence, d'espoir et d'humilité. La journée se traîna lentement, et Wilhelm n'en avait point encore passé de plus insipide. Le soir, au lieu de converser comme d'habitude, on bâillait. L'intérêt d'Hamlet était épuisé, et l'on trouvait presque désagréable d'avoir à le jouer encore le jour suivant. Wilhelm produisit le voile du spectre, on dut en conclure qu'il ne reviendrait pas. C'était surtout l'avis de Serlot. Il semblait parfaitement instruit des intentions de la merveilleuse figure. D'un autre côté, on ne pouvait s'expliquer les paroles. « Fuis, jeune homme, fuis !» Comment Serlot pouvait-il s'entendre avec une personne qui semblait avoir l'intention d'éloigner le meilleur acteur de sa troupe ? Il fut nécessaire de confier au bourru le rôle du fantôme et celui du roi au pédant. Tous deux déclarèrent qu'ils les avaient déjà étudiés, et ce n'était pas une merveille. En effet, après tant de répétitions et de si longues dissertations sur cette pièce, Tous les comédiens avaient si bien appris à la connaître qu'ils auraient pu très facilement prendre les rôles les uns des autres. Cependant, on fit une répétition à la hâte. On finit assez tard, et au moment de se séparer, Philine dit tout bas à Wilhelm « Il faut que j'aille chercher mes pantoufles. Tu ne mettras pas le verrou, j'espère. » Ces mots jetèrent Wilhelm dans un assez grand embarras lorsqu'il fut rentré chez lui. Ses soupçons, que Philine était l'inconnue de la nuit dernière, en furent augmentés. Et nous sommes obligés de nous ranger nous-mêmes à cet avis, d'autant que nous ne pouvons découvrir les causes qui le faisaient hésiter, et lui devait inspirer un autre soupçon bien étrange. Il se promena quelques moments dans sa chambre avec agitation, et véritablement, il n'avait pas encore poussé le verrou, lorsque Mignon se précipita dans la chambre, le saisit par le bras et s'écria « Meister, sauve la maison, elle brûle !» Wilhelm courut à la porte et vit une épaisse fumée descendre à flots jusqu'à lui de l'étage supérieur. Déjà on entendait dans la rue les cris d'alarme et le joueur de harpe, son instrument dans les mains, descendait, suffoqué par la fumée. Aurélie s'élança de sa chambre et jeta le petit Félix dans les bras de Wilhelm. « Sauvez l'enfant » cria-t-elle. « Nous aurons soin du reste !» Wilhelm, qui ne croyait pas le danger si grand, voulut d'abord pénétrer au foyer de l'incendie, pour l'étouffer, s'il était possible, à sa naissance. Il remit l'enfant au vieillard et lui ordonna de descendre l'escalier de pierre qui menait au jardin par une petite galerie voûtée et de rester en plein air avec les enfants. Mignon prit une lumière, Wilhelm pressa Aurélie de sauver ses effets par le même chemin. Lui-même, il courut en haut, à travers la fumée. Mais il s'exposait inutilement au danger. La flamme semblait s'avancer de la maison voisine. Elle avait déjà envahi la charpente du grenier et un léger escalier. D'autres hommes, arrivés au secours, souffraient comme lui de la flamme et de la fumée. Mais il les encourageait et demandait de l'eau à grands cris. Il les conjurait de ne céder à la flamme que pas à pas, et promit de rester avec eux. À ce moment, Mignon accourut et s'écria « Meister, sauve ton Félix! Le vieillard est furieux! Le vieillard le tue !» Wilhelm, bouleversé, descendit l'escalier précipitamment sur les pas de Mignon. Arrivé aux dernières marches, qui conduisaient dans la galerie voûtée, il s'arrêta, saisi d'horreur. Un amas de paille et de fagots qu'on avait entassés à cette place flambait vivement. Félix était couché par terre et poussait des cris. Le vieillard, la tête baissée, s'appuyait à côté contre la muraille. « Que fais-tu, malheureux ? » s'écria Wilhelm. Le vieillard gardait le silence. Mignon avait relevé Félix et entraînait avec peine l'enfant dans le jardin, tandis que Wilhelm s'efforçait de disperser le feu et de l'étouffer. Mais cela ne faisait qu'augmenter la vivacité et la violence de la flamme. Enfin, il dut s'enfuir à son tour dans le jardin, avec les cils et les cheveux brûlés, entraînant à travers la flamme le vieillard, qui le suivait malgré lui, la barbe roussie. Wilhelm courut dans le jardin à la recherche des enfants. Il les trouva sur le seuil d'un pavillon écarté. Mignon faisait son possible pour tranquilliser l'enfant. Wilhelm le prit sur ses genoux, l'interrogea, l'examina, et ne put tirer des deux enfants aucune explication suivie. Sur l'entrefaite, l'incendie avait envahi plusieurs maisons voisines et illuminait toute la contrée. Wilhelm observa l'enfant à la lueur de la flamme. Il ne put apercevoir aucune blessure, pas une trace de sang, pas une contusion. Il le palpa sur tout le corps sans qu'il donnât aucun signe de douleur. Au contraire, il se calmait par degrés, et déjà il admirait la flamme. Il se récriait sur les beaux chevrons et les belles poutres qui brûlaient à la file, comme une illumination. Wilhelm ne songeait point aux habits et aux autres effets qu'il pouvait avoir perdus. Il sentait profondément combien lui étaient chers ces deux êtres, qu'il voyait échapper à un si grand danger. Il pressait le petit garçon sur son cœur avec un sentiment tout nouveau et voulut aussi embrasser Mignon avec une joyeuse tendresse. Mais elle le repoussa doucement, le prit par la main et, en la pressant, « Meister !» lui dit-elle. Jamais encore, avant cette soirée, elle ne lui avait donné ce nom. « Meister, nous avons échappé à un grand danger. Ton Félix était à la mort. » À force de questions, Wilhelm apprit enfin que le joueur de harpe, lorsqu'ils furent parvenus dans la voûte, lui avait arraché la lumière des mains et avait mis le feu à la paille. Puis, ayant couché Félix par terre, il avait ensuite, avec des gestes bizarres, posé les mains sur la tête de l'enfant et tiré un couteau, comme s'il avait voulu l'immoler en sacrifice. Elle s'était élancée sur lui, et, lui ayant arraché le couteau, elle avait crié. Un habitant de la maison, qui avait sauvé quelques meubles au jardin, était venu à son aide. Mais il fallait que, dans la confusion, il se fût retiré et qu'il eût laissé seul le vieillard et l'enfant. Deux ou trois maisons étaient en flammes. Personne n'avait pu se sauver dans le jardin, pendant que le feu était sous la voûte. Wilhelm était inquiet de ses amis. Il ne se préoccupait guère de ses effets. Il n'osait quitter les enfants, et voyait le désastre augmenter toujours. Il passa quelques heures dans cette anxiété. Félix s'était endormi sur ses genoux. Mignon était assise à son côté et lui serrait la main. Enfin, l'on était parvenu à se rendre maître du feu. Les maisons brûlées s'écroulèrent. Le matin approchait. Les enfants commençaient à souffrir du froid. Et lui-même, légèrement vêtu, il était fort incommodé de la rosée. Il les conduisit vers les ruines de la maison écroulée et ils trouvèrent, auprès d'un monceau de cendres et de charbon, une bienfaisante chaleur. Le jour naissant réunit peu à peu tous les amis, toutes les connaissances. Tout le monde était sauvé. Personne n'avait beaucoup perdu. Les effets de Wilhelm se retrouvèrent. À 10 heures, Serlot fit répéter du moins quelques scènes d'Hamlet, dont les acteurs avaient changé. Il eut, au sujet de cette pièce, quelques débats avec la police. Le clergé demandait qu'après un pareil châtiment du ciel, on fermât le théâtre. Et Serlot soutint que, soit pour le dédommager de ce qu'il avait perdu cette nuit, soit pour réconforter les esprits consternés, la représentation d'un drame intéressant était plus que jamais à sa place. Cet avis prévalut et la salle fut comble. Les acteurs jouèrent avec une rare chaleur, avec plus de passion et de liberté que la première fois. Les spectateurs, dont la sensibilité était exaltée par l'horrible scène de la nuit et rendue plus avide d'une récréation intéressante par une longue journée de pénibles distractions, étaient mieux préparés aux impressions extraordinaires. La plupart étaient de nouveaux auditeurs, attirés par la renommée de la pièce, et qui ne pouvaient faire aucune comparaison avec la première soirée. Le bourru joua tout à fait dans le sens du spectre inconnu, et le pédant avait de même bien observé son devancier. Et s'il n'était qu'un pauvre diable, Hamlet n'en fut que mieux fondé, lorsqu'en dépit de son manteau de pourpre et de son col d'hermine, il le traita de roi en guenilles. Jamais peut-être souverain plus bizarre ne s'éleva sur le trône, et bien que ses camarades, et surtout Philine, fissent 1000 railleries sur sa nouvelle dignité, il fit cependant remarquer que le comte, en sa qualité de grand connaisseur, lui avait prédit la chose, et bien plus encore au premier coup d'œil. Cependant, Philine lui recommanda l'humilité et lui déclara que, dans l'occasion, elle saurait poudrer les manches de son habit afin de lui rappeler la malheureuse nuit du château et de lui apprendre à porter la couronne avec modestie.